Merci d'écouter France Inter, il est 13h. Le journal d'Yves Decamp. Bonjour Yves.
Bonjour. Pour défendre l'environnement par tous les moyens, après les manifestations de ces deux derniers jours, Paris organise ce dimanche sa 5e journée sans voiture. Jusqu'à 18h ce soir, les engins motorisés, sauf exception, sont proscrits de la capitale. Reportage sur un barrage dans un instant. Demain, à l'ONU, une 60aine de chefs d'État et de gouvernement débattront du climat. La France devrait faire des propositions pour l'Amazonie. Quelle majorité, quel Premier ministre pour Israël? Benjamin Netanyahou retrouvera-t-il une majorité? Le président de la République, Reuven Rivlin, commence ses consultations. Dans ce journal également, l'Académie nationale de médecine qui émet des réserves sur la PMA pour toutes. Des ours qui font toujours débat dans les Pyrénées. Un an après la réintroduction de deux ours femelles, des éleveurs continuent à protester. C'est le droit de suite de ce journal. Avec également bien sûr la Coupe du Monde de rugby, les Irlandais faciles face à l'Écosse, les Anglais qui mènent devant les Tongiens et puis, on vient de l'entendre, la pluie qui revient après un été de sécheresse. C'est le soulagement dans de nombreux départements.
France Inter.
À pied, à cheval, mais sûrement pas en voiture. Ce dimanche à Paris, pour la 5e année consécutive, c'est un jour sans moteur, sans bruit, sans pollution, sauf bien sûr les véhicules de secours, les bus, les taxis, les VTC. Jusqu'à 18h ce soir, les Parisiens ou visiteurs sont invités à laisser la voiture au parking dans Paris intramuros, périphérique exclu. Et comme à l'habitude, les avis restent très partagés sur cette opération, comme l'a vérifié Thibault Lefebvre sur un barrage du côté de la Tour Eiffel.
11h, l'heure de la fermeture des accès au centre de Paris. Et évidemment, ça ne fait pas que des heureux.
Vous allez où exactement?
Au bateau parisien.
Il y a un tractopelle, vous ne pourrez pas passer là-bas.
Je suis désolé. Hein.
Non, rien, c'est pas grave.
Nicolas est livreur.
Là, on va se garer. On était même pas au courant. Alors. Je préfère pas en parler.
Un silence qui en dit long. Depuis la fin de la matinée, Sabrina est chargée d'informer et de réorienter des automobilistes pas toujours très sympas. Elle a dû notamment faire face à un septuagénaire très agacé.
Il est arrivé, il n'était pas content de ne pas pouvoir passer. Il a insisté 5-10 minutes et après il s'est mis à insulter, il est parti.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Que Anne Hidalgo était une connasse, qu'il en avait marre d'être à Paris. Les Parisiens, ils sont jamais contents.
Les Parisiens en 4 roues en tout cas, car beaucoup de cyclistes comme Gaël et sa copine américaine Morgane pédalent eux sans casque et sans stress.
Pour nous c'est très bien parce qu'on essaye de faire un maximum de vélo, donc du coup là c'est plus agréable sans voiture, quoi. Enfin, c'est moins dangereux.
C'est génial, j'aime beaucoup. C'est comme Amsterdam un peu. Je pense que pour l'environnement aussi c'est important de faire des efforts. Enfin, je comprends que c'est pas facile pour les voitures, mais dans 20 ans ou 30 ans ça sera meilleur. Si, on prend le vélo tous les jours.
Morgane utilise son vélo quotidiennement, 30 km par jour, aller-retour entre Vanves au sud de Paris et Aubervilliers au nord, avec dès demain matin le retour des gaz d'échappement et des coups de klaxon.
Et il en coûtera 135 € d'amende pour les contrevenants. Pour voir les photos étonnantes de Paris vidées de ses voitures, une seule adresse, franceinter.fr, des photos qu'on ne peut faire qu'une seule fois dans l'année. Accélérer la lutte contre le réchauffement climatique après Paris sans voiture, au lendemain d'un week-end de manifestations pour le climat, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réunit demain à New York une 60aine de chefs d'État et de gouvernement, auxquels il a demandé de venir avec des plans concrets et réalistes, en espérant faire avancer les choses avant la COP26 de Glasgow. Parmi les interventions les plus attendues, compte tenu des polémiques du dernier G7 de Biarritz, celle du président français Emmanuel Macron, dont on attend des propositions sur l'Amazonie. Il sera d'ailleurs accompagné d'une délégation guyanaise dans laquelle figurera le président du parc amazonien Claude Suzanon, lequel appelle à intensifier la coopération entre tous les pays concernés.
Dans notre environnement, les pays voisins ont depuis longtemps une tradition de conservation quand même, hein, puisque des parcs nationaux en Colombie, au Venezuela, même au Brésil, datent depuis les années 30, ça a commencé, donc il y a une implication. Et c'est là qu'il faut se dire que la coopération est vraiment indispensable, parce qu'il faut faire des échanges d'expériences, avoir des protocoles communs pour mieux gérer cette forêt. Nous avons essayé depuis 2 ans avec un programme de coopération régionale de travailler avec le Guyana et le Suriname, en attendant de travailler un peu plus loin, puisque le Brésil pour l'instant n'a pas adhéré, à mettre en commun à des recherches sur le développement endogène, sur les cultures, hein, beaucoup sur les patrimoines culturels, qui visent à montrer qu'on travaille sur les mêmes sujets.
le président du parc amazonien au micro d'Outre-mer Première. Ce sommet de l'ONU consacré au climat permettra également des rencontres et tractations diplomatiques, toute une série de face-à-face de Donald Trump notamment, qui n'a pas prévu de rencontrer le président iranien Rouhani, lequel a de nouveau dénoncé ce matin la présence de forces étrangères dans le Golfe, en visant bien sûr les Américains. Hassan Rouhani qui continue à nier toute responsabilité dans les raids revendiqués par les rebelles yéménites en Arabie Saoudite. En Israël, 5 jours après les législatives et la légère victoire de la coalition centriste bleu-blanc devant le Likoud, le chef de l'État, Reuven Rivlin, commence ses consultations pour former un gouvernement. Il recevra jusqu'à demain soir tous les partis élus à la Knesset. Avant de regarder lequel des deux dirigeants principaux, Benny Gantz ou Benjamin Netanyahou, a le plus de soutien. Pas évident, puisqu'aucun bloc n'a la majorité absolue de 61 sièges. Frédéric Mettezo à Jérusalem.
Les coalitions restent à construire. Benny Gantz pourrait recevoir le soutien du nationaliste laïque Lieberman, mais ce dernier acceptera-t-il des députés arabes dans la coalition? Chez Netanyahou, même avec tous les partis de droite et tous les religieux, il manquerait encore 6 ou 7 sièges. Selon une chaîne de télévision, il a proposé au parti travailliste de le rejoindre. Et en interne, certains l'encouragent à débaucher quelques élus de bleu-blanc. Nili Naouri est une déléguée du Likoud.
Je pense que ça aurait dû déjà être le cas aux dernières élections, mais ils ont tenu bon. Le parti bleu-blanc ne peut absolument pas être à la tête d'un gouvernement, vu que Lieberman est contre les députés arabes, qui sont une véritable cinquième colonne.
Si aucune coalition n'est possible, il reste l'Union nationale bleu-blanc-Likoud. Benny Gantz est prêt, mais sans Netanyahou. Rien n'est donc joué, les discussions seront intenses en coulisses, mais les consultations chez le président seront publiques. Par souci de transparence, il a décidé que ces 2 jours seraient filmés et diffusés. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
Quand l'Académie de médecine émet des réserves sur l'ouverture à la PMA pour toutes, à 2 jours du débat sur le projet de loi bioéthique à l'Assemblée, c'est une contribution assez inattendue. Dans un rapport rendu public hier, l'Académie nationale de médecine écrit que la conception délibérée d'un enfant privé de père n'est pas sans risque pour son développement, que la figure du père reste fondatrice pour la personnalité de l'enfant. En même temps, la même Académie de médecine reconnaît la légitimité du désir de maternité chez toute femme et n'entend donc pas s'opposer à la PMA pour toutes, jugeant seulement qu'il n'y a rien de médical dans ce sujet. Le rapporteur du texte, l'ancien ministre de la Santé, Jean-François Mattei, explique qu'il ne devrait pas être intégré au projet de loi bioéthique, mais faire l'objet, après études approfondies, d'une loi sociétale. Ce que ne croit pas le secrétaire d'État Gabriel Attal, lui-même issu d'une PMA. Il était à l'instant l'invité de Questions politiques sur France Inter.
Moi, ma conviction, c'est que ça serait méconnaître la situation d'énormément d'enfants qui sont aujourd'hui élevés par des femmes seules. Voilà. Alors évidemment que on peut considérer que ça serait mieux si ces enfants avaient deux parents. Mais en l'occurrence, il y a beaucoup d'enfants en France qui sont élevés dans des familles monoparentales. On ne peut pas considérer que ça soit des enfants gâchés. Si on parle et qu'on retient cet argument de l'effacement de la figure de l'homme, à ce moment-là, on est aussi contre la PMA pour les couples de femmes. Et moi, c'est pas mon cas. Pour moi, ce débat, il a été encore une fois un peu tranché dans la société. On voit bien qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont la possibilité d'avoir des repères masculins, féminins dans leur entourage, dans l'entourage de leurs parents, et que encore une fois, il y a beaucoup d'enfants qui ont grandi dans des familles homoparentales ou dans des familles monoparentales, et que finalement, les choses se font parce qu'on est dans cette société-là. Moi, je suis issu d'une PMA, c'est la science qui m'a permis d'être là. Je n'ai pas le sentiment d'avoir été moins aimé par mes parents que les autres, et je me considère avoir été très bien élevé.
Voilà, Gabriel Attal, il y a quelques instants sur France Inter avec Ali Badou. Autre débat, relancé celui-là par Emmanuel Macron la semaine dernière, le débat sur l'immigration, qui lui vaut des critiques, et de gauche et de droite. Le chef de l'État accusé de tenir un double langage par Valérie Pécresse ce matin dans le JDD. La présidente de la région Île-de-France lui reproche ses paroles martiales et ses actes faibles. Sur la question des quotas d'immigration, par exemple, dont la droite propose qu'ils soient votés chaque année par le Parlement, mais ce n'est pas si simple, répond l'historien Pascal Blanchard.
Soit il y a une politique européenne, soit il n'y en a pas. S'il y a une politique européenne, elle doit être répartie à équité, c'est-à-dire que tout le monde doit y participer. On voit bien que déjà à peu près un tiers des pays sont tout à fait contre, que ce soit le Danemark. Le Danemark a été un grand pays, par exemple, d'intégration, vient d'avoir une première ministre qui a été élue à gauche avec un discours anti-immigré. On le voit bien que c'est un pays qui va refuser systématiquement les quotas. La Hongrie, on n'en parle même pas, on est au courant. La Pologne, on le sait aussi. Donc ça veut dire que le souhait d'Emmanuel Macron sur cette question-là est loin d'être partagé par ses partenaires européens.
Question des quotas. Ce matin encore dans le JDD, Valérie Pécresse demande sur quels critères, et elle dit pourquoi pas sur les critères de métier.
Bah c'est déjà le cas. Je vous rappelle qu'une entreprise qui a besoin aujourd'hui, par exemple, d'un jeune ingénieur ou de quelqu'un qui est spécialisé en télécommunications, peut obtenir un visa beaucoup plus rapidement de travail que quelqu'un qui n'a pas une profession qui est aujourd'hui en problème de flux-reflux sur le territoire national. Donc, sur le fond, ça existe déjà. On sait aujourd'hui que sur la plupart des enjeux sur les étudiants, on est extrêmement scrupuleux pour regarder les autorisations qui peuvent arriver.
Voilà Pascal Blanchard sur France Inter avec Éric Delvaux et Patricia Martin ce matin. En bref, la permanence du député La République En Marche, Christophe Arendt, à Forbach en Moselle, vandalisée pour la troisième fois la nuit dernière. L'élu a de nouveau déposé plainte. Les vitres ont été brisées par des pavés. Et puis deux mineurs en garde à vue à Marseille après la rixe qui a coûté la vie à un adolescent. C'était hier après-midi. Rixe survenue pour des raisons qui restent floues. Poignardé au dos, au thorax, à la cuisse. Le jeune garçon n'a pas pu être sauvé par les marins. Un pompier. C'était il y a un an, deux ours femelles venues de Slovénie, Claverita et Sorita, étaient lâchées dans les Pyrénées, amenées d'ailleurs par hélicoptère. Réintroduction jugée nécessaire à la sauvegarde du plantigrade dans le massif pyrénéen, où la viabilité de l'espèce est encore fragile. Depuis ce jour, Sorita a donné naissance à deux oursons, aux grandes dames de certains éleveurs, pour qui la cohabitation entre l'ours et les troupeaux n'est pas supportable. Plusieurs dizaines d'entre eux ont encore manifesté au début de ce mois à Bayonne, en déposant des cadavres de brebis devant la préfecture. Alors, comment concilier la double nécessité de l'élevage et de la biodiversité? C'est le droit de suite de ce journal, Stéphane Iglesis.
La dernière incursion de l'ours dans les alpages s'est terminée à Cotteray fin août par 120 dépouilles recensées par l'ONCFS, l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Il faut y ajouter les brebis euthanasiées et, selon les éleveurs, plusieurs centaines de bêtes qui n'ont pas été retrouvées. Olivier Morin est éleveur à Azasparos dans les Pyrénées-Atlantiques.
La plupart ont mis en place ces mesures de protection, donc les chiens de protection, la présence humaine avec des bergers et des parcs pour le regroupement nocturne. Les attaques continuent d'augmenter parce que le prédateur, tout simplement, il s'adapte. Ça veut dire que nous, bergers, on est condamnés à vivre 24 heures sur 24 auprès de notre troupeau. C'est fini d'avoir une vie sociale? Non, c'est tout simplement impensable.
Si pour de nombreux éleveurs la cohabitation n'est pas possible avec l'ours, d'autres affirment que les mesures de protection sont efficaces. C'est le cas d'Élise Thébault, l'éleveuse que Françoise de Rugy, l'ancien ministre de l'Environnement, était allée voir en hélicoptère il y a un an sur son estive.
On embauche, comme tous les ans depuis 3 ans, une salariée à temps plein. Elle est là-haut, moi je monte faire les congés, quoi, la remplacer pour ses congés. La cohabitation, c'est possible, à condition, de mettre toutes les mesures en place. Le berger doit garder ses brebis, les patous doivent être au troupeau et les brebis doivent être enfermées la nuit pour passer la nuit tranquille, protégées par l'électricité et les chiens.
Les éleveurs impactés par l'ours seront indemnisés, mais eux continuent à dire que l'ours leur complique la vie et qu'ils préféreraient vivre sans l'ours et sans compensation. Toulouse, Stéphanie Glésis, France Inter.
Invité de ce droit de suite, le docteur vétérinaire François Moutou, président d'honneur de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. Bonjour.
Bonjour.
Alors, des éleveurs qui préféreraient vivre sans ours et sans compensation, vous venez de l'entendre, la cohabitation est définitivement impossible?
Alors, ce qui est intéressant, c'est de parler de l'argent, évidemment, parce que là, on parle peut-être des compensations, mais on ne parle pas des aides en général. L'élevage ovin en France, malheureusement, il ne tient que par des aides européennes, régionales, françaises. Et on imagine mal comment pourrait se passer de cet argent. Cet élevage est en difficulté depuis des décennies. Alors c'est vrai que l'ours, par exemple, fait parler de lui, mais on n'a jamais parlé des problèmes liés aux importations de viande étrangère, aux accords de libre-échange, qui causent beaucoup plus de dégâts dans cet élevage de viande ovine que ne le feront jamais les grands prédateurs.
Mmh. Mais vous l'avez entendu, ce que disait cet éleveur, on peut pas vivre 24 heures sur 24 auprès de notre troupeau, donc c'est sans issue.
Ça dépend si on écoute ce monsieur-là ou la dame qui a parlé juste après. Moi, savoir que les éleveurs gardent leurs troupeaux, ça ne me choque pas, sachant que vous avez soit l'éleveur qui est propriétaire des animaux qui s'occupe du troupeau, soit ce sont des bergers qui sont recrutés pour faire ce travail. Et actuellement, l'État aide les éleveurs, les propriétaires, à pouvoir avoir de l'argent pour engager des bergers pour garder les troupeaux. Et les bergers eux-mêmes vous disent, s'il n'y a plus d'ours dans les Pyrénées, il n'y aura plus d'argent pour les propriétaires et nous, notre métier disparaîtra. Donc il y a aussi des points de vue extrêmement variés autour de cette question.
Alors c'est un problème réel, hein, puisqu'il y a eu 450 dossiers d'indemnisation en 2018, une hausse de 70%. Comment va-t-on s'en sortir au final
Alors c'est un chiffre extrêmement curieux et qu'il faudrait vraiment étudier de très près. On est dans un schéma assez particulier où ce sont pratiquement les éleveurs qui vont faire les expertises sur les dégâts. On n'a jamais, pour les derniers accidents qui ont été déclarés, on n'a pas la preuve que l'ours était présent à ce moment-là. Et on a une tendance assez claire dans les Pyrénées, dans certaines parties des Pyrénées, à mettre toutes les morts de brebis sur le dos de l'ours. Et c'est pas comme ça qu'on va arranger les choses d'un côté, mais c'est pas non plus quelque chose d'honnête qui permettrait de comprendre la situation. Si vraiment l'ours intervient, c'est important de le savoir pour intervenir, mais la dernière fois que déjà des agents mandatés pour faire l'expertise sont montés dans les alpages, certains doivent savoir qui, ont brûlé leur voiture, des agents de l'Office de la chasse. Dans ces conditions-là, l'Office a interdit à ses experts d'aller monter dans les alpages faire des expertises. Donc l'ambiance n'est pas sereine pour aborder ces problèmes.
Et sachant que l'ours est essentiellement herbivore, hein, que le problème est beaucoup
plus... Aux trois quarts végétarien.
Le problème est encore beaucoup plus lourd à gérer avec les loups. Hein.
Alors ça n'a rien à voir, mais dans les Pyrénées, les loups ne sont pas encore là, ou vraiment de façon extrêmement marginale. Et donc dans les Pyrénées, il y a vraiment quelques élus qui ont pris fait et cause pour ces éleveurs anti, mais localement, quand on va dans les vallées, et certaines associations font du bénévolat et font de l'information, il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait partants pour cohabiter avec l'ours, sauf qu'il y a une certaine agressivité des anti qui empêche les autres de parler. Donc il y a aussi un déni de démocratie, sachant que dans tous les référendums qui ont été faits, 80%, 75% des Pyrénéens sont tout à fait d'accord pour que les ours continuent à vivre dans les Pyrénées.
Voilà, préserver les ours, comme l'a dit Emmanuel Macron, mais dans une gestion mieux intégrée hein, des prélèvements pour les zones en surcharge.
Il faut parler,
c'est la bonne solution.
Il faut toujours de l'argent, bien sûr, mais il y a évidemment des tas de solutions techniques. C'est absolument pas impossible de cohabiter.
François Moutou, président d'honneur de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce 13h. La Coupe du monde de rugby sans problème pour l'Irlande face à l'Écosse, 27-3, victoire assez facile également de l'Italie sur la Namibie, 47-22. Et puis des Anglais qui, je ne sais pas comment dire, se baladent face aux Tongiens en ce moment même, Fanny Lechevestrier.
Vous êtes un petit peu dur avec les Tongiens, je trouve. Effectivement, c'est la mi-temps. Effectivement, l'Angleterre mène 18-3 face aux Tonga. Mais attention, parce que l'Angleterre, eh bien, elle a peiné, en tout cas, elle a été plutôt tranquille dans le jeu durant 20 minutes et ensuite elle a décidé d'accélérer avec deux essais, hein, notamment de Manu Tuilagi, deux essais en puissance. Alors si on aime cette rencontre, si on la regarde attentivement, c'est bien sûr hein, parce que l'Angleterre et les Tonga sont les prochains adversaires des Bleus. Ils sont dans la même poule, le groupe C. L'Angleterre, hein, ce sera le 12 octobre pour peut-être la finale de cette poule face à la France, et puis il y aura les Tonga le 6 octobre. Et il va vraiment falloir se méfier du Tonga parce que c'est une équipe très puissante qui joue, qui donne tout vraiment sur le terrain. On l'a vu au cours de ces 20 premières minutes face à l'Angleterre, même si ensuite, hein, quand les hommes d'Eddie Jones ont décidé d'accélérer, eh bien, les Tonga ont eu beaucoup, beaucoup plus de mal. Mais attention, hein, l'Angleterre, on le rappelle, c'est l'une des favoris au même titre que les All Blacks à cette Coupe du Monde. Donc ça risque d'accélérer en seconde période, 18-3 à la mi-temps.
Fanny Lechevestrier, oui, si les Anglais sont à la peine, alors les Français vont avoir du mal. Cette Coupe du Monde de rugby, en tout cas, commence bien pour TF1, le diffuseur unique de la compétition. Plus de 4 millions de téléspectateurs hier pour la rencontre entre la France et l'Argentine. On a entendu Jean-Michel Golinski tout à l'heure. Une grande partie du pays a retrouvé la pluie sur un grand axe central d'Occitanie au Hauts-de-France cet après-midi, notamment. Ce qui fait le bonheur des départements privés d'eau depuis parfois plusieurs mois, en Creuse par exemple, ou après un été complet de sécheresse. André et Monique, habitants de Guéret, en chanteraient presque sous la pluie.
Que cette eau soit bénie. C'est une bonne nouvelle.
C'est parce qu'il est jardinier, c'est pour ça qu'il bénit la pluie.
Voilà. Il l'attend pour son jardin.
Ça fait des mois qu'on l'attend, on va pas bouder notre plaisir. Non, c'est une bonne nouvelle, oui. Mais il faudrait qu'il en tombe beaucoup plus et pendant des jours pour en faire tous les niveaux, parce que vraiment, il n'y a plus rien. La terre, elle agonie, là. Les ruisseaux sont à sec. Même la Creuse, il n'y a plus rien, il y a un filet d'eau, il n'y a rien, quoi. Non, il faut qu'il pleuve, il faut que les nappes se refassent, les ruisseaux, tout ça. Enfin bon, puis on voit bien, la nature est en souffrance, quoi. Ça va reverdir. S'il pleut suffisamment, bien sûr que les terrains vont reverdir. Mais il faut qu'il en tombe quand même abondamment, quoi. Voilà.
Des propos recueillis par Olivier Estran de France Bleu Creuse. La pluie devrait durer une partie de l'après-midi, effectivement, avant de s'estomper en fin de journée.